Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Pierre Michon, qui publie Les Onze chez Verdier. C'est étrange, monsieur. Il a mis la figure de son père sous la forme des 11 tueurs du roi, du père de la nation, les 11 parricides, comme on appelait alors les tueurs du roi. Vous connaissez 11 récits signés de votre nom, Pierre Michon, jusqu'au jour où vous avez eu l'idée de publier Les Onze.
Oui, Les Onze, c'est le 12e. C'est le 12e qui manque dans la scène des Onze.
Et c'est un livre attendu.
C'est un livre que j'attendais, moi en tout cas beaucoup, puisque c'est un livre qui a été commencé il y a 15 ans. Et que j'ai pu finir seulement l'année dernière.
Mais vous disiez que ce livre ne serait sans doute jamais fini.
Oui.
Là, vous le disiez dans ce livre d'entretien, « Le roi vient quand il veut », que vous avez publié chez Albin Michel il y a 2 ans, et dont vous étiez venu parler dans « Raison de plus ».
Oui, oui. Oui, c'est-à-dire, je pensais qu'il ne serait jamais fini, puisque il y était question... disons, pour flatter le côté autofiction de ce livre, parce qu'il y a aussi ça dedans, il était question de celui que je ne suis plus. Et Gérard Bobillier m'a fait une commande, comme dans ma deuxième partie.
Le patron de Verdier.
Le garçon de Verdier m'a fait une commande pour finir. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre en scène cette commande, mais d'une façon différente, dans mon livre, et je vais parler de peut-être celui que je suis un peu plus que je n'étais il y a 15 ans. Si bien que ce livre... est vraiment venu en son temps pour moi, pour moi existentiellement, enfin dans mon esprit, pour recoller deux morceaux de ce que je crois être, enfin de ce que j'aimerais que soit mon être, ou de ce que je fantasme de mon être, ou que sais-je.
Recoller deux morceaux, vous voulez dire la tête et le corps?
Non, je veux dire le jeune homme. Il y a 15 ans, je n'étais pas un jeune homme, mais je me voyais encore comme un jeune homme. Je ne m'étais pas résigné à devenir vieux. Et celui qui se résigne à devenir vieux.
Donc, le livre sur la Révolution, vous l'avez vraiment fini?
Non. À vrai dire, je ne l'ai pas fini, puisque j'ai à peine traité le problème de la Révolution, d'une part. Et ensuite, parce que j'ai, et cette fois beaucoup plus que pour d'autres de mes livres, où il y a aussi beaucoup plus de matériel, mais qui n'est pas employable, ici, pour celui-là, j'ai beaucoup de choses employables et que je vais réemployer dans peu ou dans un peu plus longtemps. Mais je ne pouvais pas inclure tout ce que, si vous voulez, tout ce qui est fait en dehors de ce qui est publié a un caractère explicatif par rapport au peintre, par rapport à ses prises de position dans la Révolution, etc., qui aurait enlevé au livre son caractère énigmatique. Parce que ce livre reste quand même... Tout le monde me dit, oui, ça a l'air fini, c'est fini, c'est fini. C'est quand même une énigme. On ne sait pas vraiment le pourquoi de l'acceptation par le peintre de cette commande. Mmh. On croit que c'est l'argent. C'est peut-être ça.
Mmh. Mais c'est, vous, c'est pas ce que vous croyez, en tout cas. C'est sûrement pas ça.
N'oubliez pas que c'est dans une sacristie. Alors ça peut être l'argent ou, appelons-le son contraire, l'autre grand équivalent général qui n'a rien à voir avec l'argent. C'est Dieu.
C'est-à-dire l'or.
L'autre sens de l'or, oui. Non pas l'or monnayable, mais l'or des ciboires, l'or du paradis.
C'est étrange aussi cette fascination que vous avez pour... le roi, finalement.
Oui.
Parce que là, c'est une histoire de parricide.
Bien sûr.
Le livre précédent, dont je citais le titre il y a un instant, c'est « Le roi vient quand il veut », hein, c'est-à-dire l'écriture, finalement.
Oui, oui. Oui. Oui, c'était l'écriture, mais c'était aussi quand même, notamment dans « Le roi vient quand il veut », un petit peu la littérature comme pouvoir. Et dans ce livre-là, donc dans les 11, cette figure du roi, si adulée, si bien que certains me pensaient royaliste ou que sais-je, enfin, si métaphorisée dans mes livres, je la descends. Je la descends tout en l'exaltant une fois de plus, puisque ces 11 membres du comité de salut public, ce sont évidemment les tueurs du roi, mais ce sont aussi ceux qui tiennent exactement la place de l'exécutif vacant depuis la mort du roi. À l'époque, c'était quelque chose. Un exécutif qui ose être un exécutif alors que le roi est mort, c'est un groupe de sacrilège. Mmh. C'est un groupe de rois, donc, et c'est un groupe de tueurs du roi dans la même personne.
Donc le roi, Dieu, l'or, ça fait beaucoup pour l'auteur des Vies minuscules.
Mais moi, vous savez... Oui, écoutez, alors, bon, on va... Là, je suis content. Bon, on va pouvoir régler cette question. Parce que, dans les Vies minuscules, en dépit de l'adjectif, en dépit de la ruralité, en dépit, etc., de tout ce que mes bons amis, mes bons apôtres indexent afin de mieux me mettre à la trappe, dans les Vies minuscules, il était question de Dieu, de l'art et de l'or, même si c'était dans le manque de l'or, même si c'était dans le quasi-manque de Dieu, et pas tout à fait dans le manque de l'or. Je ne crois pas avoir changé de thématique, et ma thématique, ça n'est pas la creuse profonde.
C'est votre thématique.
Tout ce dont on vient de parler.
Ouais. Et derrière tout ça, il y a une figure, en creux, une figure absente.
Oui.
La figure du père.
C'est vrai. C'est vrai, mais... Bon, puisqu'on revient à ce qui est biographique, autobiographique dans mes livres, cette figure du père, si elle a été décrite dans son absence du côté de l'intime, pour moi, dans les Vies minuscules, c'est-à-dire du côté de la douleur réelle ou de la vérité, disons, et dite dans les 11... du côté de la théâtralisation et de la presque de la dérision. C'est-à-dire que mon roman familial, si on peut dire, autant il est ressenti, intimement développé et dans une sorte de douleur dans les Vies minuscules, autant il est joué et théâtralisé dans ce livre sur la Révolution, et qui est une période théâtrale, s'il en fut.
On va y revenir à ce livre, Les 11, qui paraît chez Verdier, mais on va ouvrir une petite parenthèse, Pierre Michon, pour signaler la publication simultanée d'un autre livre, qui n'est pas de vous, mais de Agnès Castiglione, chez Textuel, qui diffuse le livre coédité par Culture France, oui, et Lina, et qui est un livre CD, hein, avec une étude. sur votre œuvre, un choix de texte et un CD qui propose des extraits d'entretiens de France Culture, je crois, de la Voix oui. Nue avec Colette Fellouz.
Oui. Hein.
Voilà. Alors, Agnès Castiglione met un peu d'ordre dans vos affaires.
Oui.
Et elle repère un certain nombre de séries. Hein. Vous seriez un auteur de séries, quand même.
Oui, mais bien sûr, comme Andy Warhol en ce moment. Mais qu'est-ce que les 11, sinon une série de 11 masques ou de 11 bonshommes, bien sûr. Et les minuscules étaient une série de 8.
Voilà, ouverte donc en 84. Oui. Donc ça, c'était le livre mère. Hein,
oui, elle le dit très bien. Voilà. C'est ce qu'il dit, elle le dit très bien. Oui.
Et ensuite est venue la série des peintres.
Oui.
Avec Vite Joseph Roulin, qui a tout inauguré. C'est un livre qui inaugure aussi votre collaboration aux éditions Verdier, je crois.
Bien sûr. C'est pour ce livre que la couverture jaune de chez Verdier a été trouvée, puisque c'était le jaune Van Gogh au départ, ce jaune.
Et Joseph Roulin, c'était le modèle de Van Gogh à Arles, un facteur par ailleurs. Hein, je crois.
Oui.
Ensuite, il y a eu Maître et serviteur, 2 ans après, avec 3 autres peintres évoqués.
Oui.
Goya, Watteau et Piero della Francesca.
Oui.
Puis Le Roi du Bois, en 96, qui cette fois-ci donne la parole à un disciple de Claude Lorrain.
Oui, oui. Hein.
Et enfin, La Grande Beune, où se trouve
Lascaux,
c'est-à-dire le lieu de naissance de l'art, hein, si on écoute dit Georges Bataille. Donc voilà, et la peinture d'ailleurs, on la retrouve dans les 11, le livre dont il est question ce soir, puisque au centre, c'est un tableau.
C'est l'histoire d'un tableau.
Un tableau qu'on chercherait désespérément dans tous les musées de France.
Qu'on cherche au Louvre, vous savez qu'on cherche le tableau au Louvre.
Est-ce qu'il a vraiment existé ?
Non, mais beaucoup de visiteurs viennent le chercher.
Et ce tableau est un portrait ?
Oui, quel est l'adjectif qui va avec 11 ? Tiens, ça m'échappe. Un portrait en 11 figures.
Ouais. Donc un portrait collectif.
Oui.
Et ce sont, vous le disiez tout à l'heure, les 11 membres, pas un de plus, pas un de moins, du Grand Comité de Salut Public qui a organisé la Terreur en 1793. Et ce tableau a été commandé ou imposé, je ne sais pas exactement, à un peintre qu'on cherche aussi peut-être vainement dans toutes les histoires de l'art.
Oui, François-Élie Corentin.
Voilà.
Par quoi commencer ?
Ça fait beaucoup tout ça.
Attendez, ce tableau... Oui, ce tableau ne pouvait pas exister pour les raisons que... Il ne pouvait pas être commandé par le comité de salut public, puisque le comité de salut public, ce gouvernement que Saint-Just disait révolutionnaire jusqu'à la paix, était une parenthèse et ne devait pas être en quelque sorte visible. C'était un comité plus ou moins secret, enfin un secret de polichinelle, mais un comité non pas au grand jour. Donc il a été commandé à mon peintre par des malfrats politiques, qui voulait soit...
Il y en avait à l'époque. Hein.
Il y en avait beaucoup.
Il n'y en a plus aujourd'hui.
Les malfrats de cette époque ont ma sympathie la plus vive. Ceux d'aujourd'hui, après tout, je ne sais pas. Peut-être que certains ont aussi ma sympathie, je ne sais pas. Mais ceux de cette époque prenaient, il me semble, un peu plus de risques que ceux de notre époque. C'était plus proche de Chicago au niveau des coups de fusil que des procès qu'on peut intenter à des... Bon, bref. Donc, ces malfrats ont peur de l'ascension de Robespierre et veulent tirer leur épingle du jeu, soit en descendant Robespierre, soit en l'exaltant. Et ce tableau doit être fait de sorte que, lorsqu'il sera produit au grand jour, soit on puisse dire, regardez, C'était des misérables, c'était des affreux, ces membres du comité. Ce sont 11 tyrans. Soit, regardez, comme c'était déjà des bons pères de la nation, des bons législateurs. Quelle noblesse en eux. Et je me suis dit, en faisant ce tableau, c'est le statut de toute grande peinture politique, de toute belle et grande et réussie peinture politique. On peut dire, soit ce sont des merveilles, soit ce sont des salauds. On peut le dire, j'en parle toujours, mais du Champagne du Louvre, par exemple, qui était dans le tableau, dans le portrait politique, c'est une des plus grandes merveilles qui soit. On peut le dire des grands Velasquez, bien sûr, de tous les Velasquez. On peut moins le dire de Goya, qui a un côté, pas toujours. Goya, il y a des portraits individuels de certaines personnes, même le portrait de Godoy, qui sont des merveilles dans ce sens-là. Mais, par exemple, pour la famille royale d'Espagne, Goya a un peu trop forcé le côté critique et caricatural. On ne peut pas dire que c'était des bonnes personnes. Bon, ça, c'est pour ce qui concerne la peinture. Et je veux dire quelque chose quand même. Je vois que souvent, on hésite là-dessus. Ce comité de salut public, ça n'est pas le premier, loin de là. C'est simplement celui au moment duquel la terreur s'est emballée. Parce qu'il y a eu beaucoup de comités de salut public avant. Enfin, beaucoup, pendant un an, peut-être. Depuis ceux où était Danton, etc. Bref. Mais là, ce comité-là, tout à coup, comme tout le monde était éliminé, en fait, tous leurs opposants étaient éliminés. Il n'y avait plus de Girondins, il n'y avait plus de Royalistes, Ils avaient tous, à des nuances, à des infimes nuances près, le même avis, mais ils étaient emballés dans cette histoire, épuisés dans cette histoire de lutte entre eux pour le pouvoir, et ils ont continué à se tuer à vide. Moi, je pense qu'ils se sont tués à vide. Enfin, je suis pas le seul. Comme dit la belle phrase de Michelet que je cite dans ce bouquin, Michelet dit, finalement, ils pensaient pas loin les uns des autres, mais il fallait qu'ils mettent entre eux le distinguo de la mort. Et ça m'a... Et bon, évidemment aussi, ce chiffre 11, parce qu'il va de soi qu'au départ... Ils sont 12, les membres du comité de salut public, de tous les comités de salut public. On refait la scène de la scène christique. On ne va pas l'amputer d'un apôtre. Mais Hérode Séchelles, qui était le plus modéré de l'affaire, a été évincé juste avant que le tableau soit commandé à Montpeintre.
Mais dans la scène, les personnages sont assis, tandis que dans les 11, ils sont debout.
Écoutez, les Dominicains disent... Le repas évangélique doit être pris, le bâton à la main, le bâton de pèlerin, debout, et les reins saints. Les reins saints par une ceinture de marche ou je ne sais pas quoi. Mais là, avec ces ceintures tricolores que portent certains, c'était trop tentant de le traiter comme ça. Et de le traiter, oui, comme une... Parce qu'après tout, la scène, c'est en urgence. On rompt le pain, enfin le chef de l'affaire rompt le pain et dit maintenant au travail, vous allez faire ça en souvenir de moi, c'est pas le moment de rester assis et de etc.
On voit bien en vous écoutant, Pierre Michon, que les historiens n'ont plus rien à vous apprendre sur la Révolution française. Vous avez beaucoup beaucoup travaillé en amont de l'écriture de ce livre.
Oui, mais ils sont beaucoup à m'apprendre sur des choses qui demeurent mes points aveugles, qui est la politique comme institution, comme législation, comme finesse des nuances, etc. Tout ça m'échappe. Simplement, moi, ce que je vois dans les historiens, ce que je traite, etc., c'est l'épique. C'est l'épique. C'est le côté épique. C'est pas le côté politique au sens propre.
C'est pourquoi vous n'hésitez pas à mêler de la fiction à du réel.
Il y a si peu de fiction dans ce livre.
Il y a de l'imagination.
Il y a le tableau. Il y a le tableau.
Mais le tableau n'existe pas. C'est une fiction.
Oui, oui, oui.
Le peintre n'existe pas non plus.
Non.
Ça fait beaucoup de fiction pour un livre sans fiction.
Oui, oui. Oui, oui, c'est, bien sûr que c'est une fiction, mais est-ce que... Et si ce tableau avait existé? Je dis qu'il ne pouvait pas exister parce qu'il ne pouvait pas être commandé, mais commandé par les membres du comité de salut public. mais des gens mal intentionnés ou trop bien intentionnés auraient pu le commander en sous-main. Il pourrait exister. Je crois que ce tableau pourrait exister. Évidemment, personne n'a posé pour ce tableau. Bien sûr. Mais Corentin, qui était un type très, très introduit dans le milieu politique et dans le milieu culturel de l'époque, connaissait par cœur tous ces types qu'il a peints. Le réel, je crois avoir beaucoup... Non, j'exagère. J'allais dire, je crois que c'est tout vrai, mais quelle drôle d'idée. Non, par exemple, il y a beaucoup d'approximations. Le siège de la section des Gravilliers que je mets à l'église Saint-Nicolas n'était pas à l'église Saint-Nicolas. Je n'ai pas trouvé où c'était, je n'ai pas eu le temps d'aller aux archives. Mais à l'église Saint-Nicolas, c'était une école républicaine, enfin bref. Non, il y a beaucoup d'approximations. Comme par exemple, je dis que c'est pour Madame de Pompadour que Louis XV a fait construire Louveciennes, mais c'était pour Madame du Barry. Mais je ne pouvais pas parler de Madame du Barry là-dedans parce que je voulais employer à propos de Madame de Pompadour le mot « maman putain ». Et c'était les enfants du roi Louis XV, petits, qui appelaient Madame de Pompadour « Maman putain ». Et il fallait absolument que je place ça, donc j'ai mis Madame de Pompadour plutôt que Madame du Barry. Mmh. Et il y a d'autres, combien d'autres erreurs? Par exemple, je vous ennuie pas.
Non.
Par exemple,
ça, vous m'apprenez beaucoup de choses.
Par exemple, le carrosse Sainte-Beuf que je prête à Tallien dans les mitraillades de Bordeaux, quand Tallien était représentant en mission à Bordeaux, n'est pas le carrosse de Tallien, mais le carrosse de sa femme, Teresa Cabarrus, Madame Tallien, dans Paris, après Thermidor. Madame Tallien, qu'on appelait Notre-Dame de Thermidor. Quel dommage que je n'ai pas parlé de Thermidor, parce que ça, ce serait dedans. Enfin...
Le livre Les Onze, Pierre Michon, peut se lire comme une lettre adressée à, oui, à un interlocuteur que vous désignez par monsieur.
Monsieur.
Tout au long du livre, c'est... à moins que ce soit un monologue avec un absent ou un silencieux.
Formellement, c'est un monologue théâtral, on peut dire, avec les effets d'accélération rhétorique du théâtre, avec les choses comme ça. Puis, ça t'adresse toujours. Mais ça peut être effectivement, je vous vois venir, ça peut être effectivement adressé à cette figure du père absent, mais ça peut être aussi adressé à la figure du fils. Je pense à... J'y ai pensé pendant la rédaction du texte, il y a un des chapitres qui commence ainsi. Où en est la nuit, monsieur? Et où en est la nuit, monsieur? C'est la première phrase de l'acte 2 de Macbeth, où Banquo dit à son fils, où en est la nuit, mon fils? Et là, à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est bizarre, ça peut être une transmission.
Mmh. Ça fait entrer la mémoire aussi dans le
oui,
jeu.
Une transmission.
Alors votre exégète, Agnès Castiglione, dans ce livre que je citais tout à l'heure, qui vous est consacré, parle de ce miracle de la présence réelle que vous recherchez dans le langage. C'est
oui,
peut-être la réponse à la question précédente.
Oui.
Et vous-même, Pierre Michon, à la fin, à la toute fin de ce récit, Les Onze, après avoir évoqué Michelet, vous parlez de la présence réelle de l'histoire avec un
oui,
H majuscule.
Oui. Oui, ces onze sont si célèbres de par le monde seulement parce qu'ils présentifie l'histoire aussi fortement que le Saint-Suaire présentifie le Christ, par exemple, ou que l'Arche d'Alliance présentifie le Dieu hébraïque. Non, ça serait une bêtise de dire ça, mais le... Oui, le présentifie, peut-être. Oui, ce que j'appelle la présence, comme ça, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est le moment où le... Où le langage, moi, le langage que je suis en train de mettre en forme, dans m'émeut comme si c'était un dieu. C'est-à-dire le moment où il devient par rapport à moi-même qu'il énonce un objet transcendant.
Mmh.
Et c'est ce qui se passe à la fin de mon texte, c'est ce qui se passe au niveau du langage, enfin, dans ma façon de le faire, je ne dis pas dans la réception qu'en auront les gens, et aussi dans la métamorphose, si on peut dire, de ces onze, qu'on les appelle Malfroid ou qu'on les appelle Bon Législateur, qu'on les appelle Solon ou qu'on les appelle Al Capone, leur métamorphose en 11 figures divines.
Un texte, ça serait autre chose que des lettres mortes.
Je crois, oui. Ah oui, ça doit être autre chose que des lettres mortes. Ça doit... Enfin, ça doit rien, mais... J'aime les textes qui, tout à coup, se métamorphosent en un dieu. Oui. C'est cette vieille phrase d'Hegel que je cite à tout bout de champ sans avoir lu en entier esthétique. L'art, le but de l'art est de représenter Dieu. Des non mots. Pas de le représenter au sens strict, mais de le faire advenir, de le faire advenir.
C'est-à-dire que des mots se rencontrent et produisent quelque chose comme une illumination.
Illumination, c'est beaucoup dire, parce que ce n'est pas une hallucination ni une vision.
Non, mais je le dis au sens d'un poète que vous connaissez bien.
Oui. Oui, une... Une présence qui n'est pas nous, qui nous ressemble beaucoup, mais qui nous dépasse de beaucoup, et qui apparaît dans le langage. Mais ça, n'est-ce pas ce qu'on cherche tout écrivain et tout poète ?
Ça n'arrive pas à tout bout de champ, ça. Est-ce qu'il suffit de travailler pour que ça arrive ?
Non, oui, ça suffit de travailler, bien sûr. Mais... Ça dépend peut-être si un auteur est la dupe de son texte, comme je le suis, ou s'il ne veut pas l'être. Moi, je veux être la dupe de mon texte. Je ne sais pas si je suis toujours, mais je veux l'être. Et certains tempéraments plus lucides que le mien, plus critiques, ne veulent pas l'être.
Ça veut dire qu'il faut avoir un peu de croyance ?
Il faut s'en infuser de la croyance. Il faut s'en... Non, j'allais dire des bêtises. Parce que je n'en ai pas plus qu'un autre, mais je veux dire que j'essaie d'exploiter en moi ce filon-là. Celui de la croyance et pas celui du retrait, de la critique et de la que je ne juge pas du tout inférieur au mien, mais qui n'est pas le mien.
En quoi ça consiste, l'exploitation ?
L'exploitation
de cette croyance. Ou comme l'exploitation d'une mine aussi bien, hein. Il faut descendre.
Une mine d'or, vous voulez dire.
Il
ne
faut pas s'élever, il faut aller en dessous, au sous-sol.
Les deux. Il faut descendre au plus profond, dans les cavernes, bien sûr, mais en même temps, enfin, ce texte commence par les plafonds de Tiepolo et finit par les cavernes de Lascaux. Et c'est en quelque sorte le même endroit. Descendre, sûrement, mais... pour mieux monter.
Il y a un point d'appui, quelque chose, à partir de quoi le travail commence. Là, est-ce que ça a été l'imagination de ce tableau, les 11,
oui.
Que vous auriez aperçu au bout du pavillon de Flore,
oui,
au musée du Louvre.
Tout au bout du pavillon de Flore. Bon, c'est vraiment le cœur de Paris. Puis c'est aussi, enfin, si j'ai mis dans ce cœur de Paris, c'est aussi pour en finir avec ces histoires de Limousin, de province, etc. Il fallait bien prendre le pavillon de Flore.
Et le tableau vous est apparu comme ça ?
Le tableau m'est apparu tout de suite quand j'ai pensé ce texte. mais paru, mais enfin, je l'ai dit plusieurs fois, mais sous la forme de l'énumération des noms des membres du comité de salut public. Et j'ai su tout de suite que si je faisais un texte sur la Révolution, enfin sur la Révolution, autour de la Révolution, ce serait un texte sur un tableau d'un peintre tiepolien, miraculeusement génial à cette époque-là.
Mmh. Et vous vous souvenez que dans Le Roi vient quand il veut, vous parliez déjà de ce livre en projet, et vous disiez, j'imaginais un monde où les Japonais passent devant la Joconde à toute allure sans la regarder, et vont photographier les 11, le tableau le plus célèbre du monde, de 11 mètres sur 4, sous une vitre blindée de 5 pouces.
Hein, voilà ce Oui, j'avais déjà l'idée de ce tableau. Ce tableau qu'on ne voit pas, on ne sait pas pourquoi il est si génial que ça. Enfin, si, la présence du comble de l'histoire qu'est la terreur. L'ambiguïté de la lecture qu'on peut faire des commissaires dans ce tableau. Mais, simplement, il n'existe que par ma décision de dire « c'est le plus célèbre tableau du monde, c'est le plus beau tableau du monde, la preuve, les Japonais passent à fond de caisse devant la Joconde, devant la Vénus de Milo, devant le chon, ils prennent toute la galerie, on les voit courir, et ah, ils sont arrêtés là.
Mmh. » Ce tableau, au début, personne n'en voulait. Hein. Robespierre, certainement pas.
Ah ben non, il ne savait même pas que ça allait exister, ce tableau. Personne personne n'avait la moindre idée que ce tableau était en train d'être peint par Corentin, à part le traître Collot d'Herbois qui le commande, et un banquier véreux, jacobin, qui est mort d'ailleurs avant Thermidor.
Qui paye rubis sur l'ongle.
Et qui paye. Mais ce type a existé, Proly, c'était un banquier qui était très bizarre. C'était un fils du prince de Kaunitz. Le prince de Kaunitz, c'était un fils adultérin. Le prince de Kaunitz, ça devait être un grand, soit d'Autriche, soit de Prusse, je ne sais plus, d'Autriche, je dirais. Et c'est un enfant qu'il a eu avec une femme belge, ce Proly. Ce nom doit être celui de la femme belge. Mais comme par son père, il a commencé une affaire de banque, c'est la banque. Proly représente là-dedans la banque, le capital qui fait son nid dans la Révolution. Mmh. Donc, ce malfrat-là, Collot d'Herbois, qui est un malfrat, mais lui, un malfrat magnifique, un malfrat, un acteur. Quand on dit les acteurs de la Révolution française, les historiens, vous savez, toutes les fois que je lis cette phrase, les acteurs de la Révolution française, un tel, mais je l'entends au sens strict, les acteurs. Collot d'Herbois était un acteur. C'est son premier rôle, sa première fonction. Donc, Collot et Léonard Bourdon, qui est un populiste, disons, je ne sais pas quoi, un poujadiste exalté, enfin, bref. Donc, ce n'est pas la crème de la terre qui commande ce tableau, qui sera, lui, le plus que la crème de la terre, l'or du monde, le sel de la terre.
Donc, le tableau, on peut le voir aussi comme un coup de chance.
C'est un coup de chance. Mais est-ce que les grands tableaux ne sont pas toujours des coups de chance? Des rencontres d'hommes, le temps qu'il faisait ce jour-là, allez savoir. Le jour où ça a été peint, l'échange, la relation qui existait entre le peintre et son modèle.
C'est ça, cette présence dont vous parliez, c'est un coup de chance?
Oui, c'en est une modalité, oui. Oui. La chance, oui.
Dans le livre, vous dites « Parce que l'histoire à sa ceinture porte une poche de chance. Une bourse spéciale pour la solde des choses impossibles. »
Oui. Oui, c'est évident, c'est une phrase un peu... En tout cas, c'est une phrase qui dit que je ne crois guère aux nécessités historiques. Bon, d'une part. Et d'autre part, cette phrase dite comme ça est pas un pastiche, mais presque une façon de dire comme aurait pu le faire Shakespeare. Et Shakespeare est avec Michelet, est un des auteurs que j'ai sans cesse écouté en faisant ce texte.
Donc le théâtre encore.
Le théâtre, oui. Oui, oui. Oui, oui, la théâtralisation, je sais bien, de mon autobiographie, bon, ça ne tient qu'à moi, mais indexation, peut-être, du côté théâtral et théâtral assumé, je ne dis pas dans le mauvais sens, de la Convention des grands révolutionnaires, de Saint-Just, par exemple, de Saint-Just, merveilleusement.
La chance, c'est l'ami des joueurs.
Oui. Oui, d'ailleurs, ce tableau est dit être un joker. Là, il y a un jeu. Il y a la deuxième partie, cette commande faite du tableau par les malfrats, a quelque chose d'une scène de poker dans Le Parrain ou dans je sais pas. Oui. C'est un et avec l'enjeu du tas d'or au milieu. Oui. En jeu du tas d'or, qui d'ailleurs n'est pas seul, puisque ce tas d'or remplace le sacré, qui était les reliques des saintes qui sont là, qu'on brûle, qu'on fait au feu. Dans ce...
La roue aurait pu tourner dans un sens ou dans l'autre.
C'est-à-dire ?
Hein ? C'est-à-dire qu'il y avait l'hypothèse Robespierre prend le pouvoir,
oui.
ou le contraire.
Oui,
et
oui.
Peut-être le génie de Corentin, ce peintre qui n'existe pas, c'est d'avoir réussi un tableau qui peut se lire dans les deux sens,
oui,
et
oui.
Être accepté en toute hypothèse.
Bien sûr. Dans le morceau que je n'ai pas encore publié, enfin bref, dans les morceaux que je n'ai pas publiés, il y a un moment, je dis qu'au moment où ce tableau a fait surface après Thermidor, enfin, parce qu'il a disparu, on ne l'a pas vu, personne ne s'en est servi, ni pour faire tomber Robespierre, ni pour l'exalter. Mais il est reparu, un an ou deux ans plus tard, et je dis, les amis du comité de salut public, ils reconnaissaient leurs amis, ses ennemis, ils reconnaissaient leurs ennemis. C'est ça, un tableau bien réussi. C'est-à-dire, voyez comme ils étaient fiers, comme ils étaient. On voyait bien que ces hommes ne reculeraient pas, que la liberté était avec eux. Les amis disaient ça. Les ennemis disaient, regardez-moi cette tête de malfrat.
Les 11, le livre de Pierre Michon, est publié chez Verdier. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Stéphane Desmonts, Didier Pinault, Alain Weinstein.